ça va jusqu'à Courbet, ça s'appelle WGA, Web Gallery of Art, WGA. Et là, c'est très très bien, vous avez vraiment des très bonnes monographies. Et là, vous avez une liste alphabétique du peintre, sculpteur, designer, créateur d'objets, etc., architecte. Et si vous cliquez, en général, c'est très bien fait. Et sinon, maintenant, je découvre progressivement le Wikimedia, WikiArt Project, là. Et là, effectivement, on tombe aussi sur des mines. Alors, je suis en train de... Avec des... Et des définitions de documents de plus en plus... De qualité de plus en plus belles. Donc là aussi, c'est très intéressant. Donc, c'est que... Et puis, il y avait un autre site russe, parce qu'il y a beaucoup de sites russes. Alors, je tombe dessus par hasard, parce que... Mais ça s'appelle Olga's Gallery. Olga, apostrophe S, la galerie d'Olga, si vous voulez. Et là, vous avez un très bon choix aussi de reproduction, si vous voulez vous-même aller fouiller et trouver un artiste, parce que sinon, c'est pas évident hein, de trouver une monographie de qualité sur un artiste. Hein. Donc, Olga's Gallery, Web Gallery of Art, bon, ça c'est plutôt pour les... Et puis, alors... Souvent on tombe sur WikiArt, hein, Wikimedia, et là c'est parfois de très bonne qualité aussi. Par exemple sur et puis par exemple sur la cathédrale de Chartres, il y a des sites bien particuliers. J'étais tombé sur un site où il y avait tous les vitraux en belle qualité. Enfin c'est vrai que pfiouf, ça. Mais on met du temps parfois à trouver, hein, parce que il faut comme c'est des statistiques, des clics statistiques, parfois vous tombez quelque chose même. Relativement connu, vous n'arrivez pas forcément sur le meilleur site. Là, faut...
Et la Wikipédia est souvent plus riche en
anglais. Ah, bien sûr, voilà, largement. Voilà. Il y a plein de trucs italiens là, que je n'ai pas trouvé en français, hein, qui étaient en italien. Par exemple, même sur l'art contemporain, c'est des sites en allemand qui sont les mieux. Par exemple, une grande artiste comme Niki de Saint-Phalle, il n'est presque rien en français jusqu'à voilà, 2 ans. Tous les films, tout ça, c'était en allemand. En français,
La difficulté, après, c'est pour traduire.
Ouais. Alors, parfois, oui. Bon, après, bon, quand on a les documents, ça va. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Monsieur Séguier est là, donc on peut commencer. Il est à l'heure pile, mais... donc, vous souvenez, on est dans cette histoire de portrait double. Portrait double, et puis, alors, c'est pas une catégorie, hein, c'est moi qui ai un petit peu construit ça pour tourner autour des époux Ranolfini, parce qu'il y a quand même, je dis, un enjeu, c'est l'enjeu d'un portrait profane, donc de personnes qui sont représentées comme époux. Et je vous ai montré que l'idée du portrait double, ça se raccrochait quand même à, on va dire... l'histoire de l'humanité, évidemment, c'est la question masculin-féminin la plupart du temps aussi. Hein, comment est-ce qu'on va associer ces deux figures humaines, une masculine et une féminine ? Alors, les annonciations, par exemple, les donateurs, on a vu d'autres portraits comme ça, religieux et humains, hein, cette espèce de rapport complexe, et puis la façon de diviniser progressivement aussi, de continuer à diviniser les figures féminines, alors que la tradition, on va dire, biblique et même chrétienne, tente à relativiser toutes les figures féminines. Donc vous avez aussi des enjeux qui sont intéressants. Alors, j'étais arrivé au portrait double, humain-divin, et par exemple, hein, celui-ci, alors, qui est tantôt attribué à Memling, hein, donc un des primitifs flamands contemporains de Van Eyck. Et rappelez-vous ce côté aussi, la décence qui veut de mettre côte à côte, dans le même espace ou à la même taille, sans valeur hiérarchique, une personnage sacré, Marie, et un donateur ou un adorateur, un contemporain du peintre, que l'on voit ici. Hein, et rappelez-vous qu'il y avait des jeux subtils. Des jeux subtils par exemple, de perspective, dont on se rend compte qu'en faisant les constructions. Hein, surtout que ce sont deux panneaux séparés. Ce sont deux panneaux séparés qui sont rapprochés l'un de l'autre, mais on voit très clairement ici que le point de fuite n'est pas mis par hasard sur la bouche, hein, de Marie ici, comme effectivement étant Rappelez-vous que dans la tradition chrétienne, la parole est essentielle, donc la bouche, c'est aussi cela. Donc, et la ligne d'horizon qui les réunit aussi, mais aussi avec cette idée que, tout en étant sur la même ligne d'horizon, ils ne se voient pas, comme dans les annonciations de Frangelico. Alors, j'avais même retrouvé, chose étrange et étonnante, c'est ce diptyque de Melun, reconstitué ici, dont la partie la plus célèbre, c'est celle qui est à Anvers, c'est cette Vierge entourée d'anges, dont on dit qu'en plus, ce serait le portrait de Anne Sorel, je crois, la maîtresse du roi. Et, chose bizarre, on retrouve exactement la même structure. On retrouve exactement la même structure perspective. Donc, alors tout ça, ça conforte aussi des choses qui sont marrantes hein, au niveau des ateliers. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de tradition écrite, mais il y a vraisemblablement des grandes traditions d'ateliers. C'est-à-dire, de peintre à peintre, ils se transmettent des codes. Hein. On en parlait l'autre jour, ils sont discrets, ces codes-là, mais néanmoins présents. Alors, Melun, il était dans la collégiale de Melun, qui est sur l'île de Melun, une île importante, rappelez-vous, en plus, l'île de Melun, c'est tout bête, c'était aussi un culte à Isis qui était à Melun, s'appelait Isia, c'est appelé Isia à un certain moment. Et Melun et Paris sont deux villes royales pendant très longtemps, avec aussi des cultes féminins, hein, Notre-Dame, où on retrouve ici peut-être une dimension... alors, je ne vais pas faire du... Mais il y a très certainement des sortes de mythes souterrains comme ça, qui resurgissent assez régulièrement, notamment sur les figures féminines que l'on voit ici. Alors ça, je crois que c'est une copie, hein, parce que c'est pas très bon. Et ça, je vous l'avais montré. Alors, dans les figures doubles, vous avez des figures doubles. Alors là, c'était... hashtag balance ton Jean-Baptiste, là, ou balance ton Holoferne. Mais vous avez quelque chose qui est quand même aussi intéressant dans les figures féminines et les figures masculines, et là, dans un rapport, qui est un rapport, alors cette fois-ci, dur et violent. Et ce qui est assez drôle, que ça soit Salomé ici, qui donc obtient la décapitation de Jean-Baptiste, ou que ça soit ici Judith, qui, elle, est une jeune femme positive, cette fois-ci, qui est... lutte contre la brute d'Holoferne. Vous avez quand même, alors on verra ça plus tard aussi, on reprendra les mythes de Judith et Holoferne et de Salomé, qui passent par la décapitation de l'homme, et qui sont souvent représentés, chose étrange, alors que Salomé quand même obtient la décapitation d'un personnage sacré, Jean-Baptiste, hein, saint, elle est plutôt représentée comme une victime, elle est instrumentalisée par sa mère, hein, qui est la maîtresse du roi Hérode, enfin vous connaissez sans doute l'histoire, et qui obtient que sa fille demande à Hérode de décapiter Jean-Baptiste qui est dans la prison, donc qui est emprisonné par Hérode. Donc Salomé est représentée en fait, là c'est Judith, hein, et là c'est Salomé, mais est rarement représentée comme une femme cruelle, vengeresse, qui irait tuer le saint Jean-Baptiste, etc. Elle est elle aussi victime en fait de machinations. Hein, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, je n'identifie pas la personne qui est là. Est-ce que c'est Hérode lui-même? Peut-être. Donc alors, on reviendra sur cette idée de portrait double, mais enfin, on est là dans un extrême, on peut dire, du portrait double. Alors, je voulais aborder maintenant d'autres portraits doubles couples. Cette fois-ci, on revient un petit peu, si vous voulez, aux époux Arnolfini. Et il y a des choses qui sont assez rigolotes, comme par exemple celui-ci, de Filippo Lippi, donc peintre italien, 1440, hein, c'est contemporain des époux Arnolfini, où là, vous avez de façon presque exacerbée l'homme à l'extérieur et la femme à l'intérieur. Hein, avec Arnolfini, on a l'homme qui est du côté de la fenêtre, la femme du côté de l'intérieur. Là, elle est ici représentée dans un profil, un peu en profil de médaille. L'homme arrive de la fenêtre et fait juste apparaître son profil dans la pièce. Alors, est-ce qu'il la courtise? Est-ce qu'elle est... Dans quelle mesure elle est emprisonnée ou à l'intérieur? On ne sait pas. Elle est quand même devant un paysage, hein, derrière, mais voilà quelque chose de très subtil du point de vue du rapport masculin-féminin, des portraits doubles, et qui est extrêmement élégant et raffiné. Alors, voilà un autre portrait double, ça, de commanditaire. Hein, c'est un Sforza, hein, donc c'est la famille des Sforza, des grandes familles italiennes. Et vous avez ici alors le bonnet qu'on verra, y compris chez Frédéric de Montefeltre, qu'on avait vu. Et là, c'est un portrait double. Alors, ils ne sont pas ensemble, mais ils sont quand même mis à égalité, hein, face à face. Alors, il y a plusieurs raisons, mais y compris les alliances et les mariages, c'est aussi les alliances de territoire, hein, de fortune. Et ceci dit, la femme et l'homme sont ici représentés à exacte égalité, même elle est légèrement au-dessus, avec toujours, c'est peut-être pour laisser la place au chapeau et au bonnet. Hein. Vous avez aussi, là, quelque chose qui est vraiment notable dans les portraits, justement, de contemporains, c'est qu'on s'écarte de l'idéal. Il n'y a que Léonard qui fera le portrait de Mona Lisa comme si c'était une sorte de divinité, au lieu de faire un portrait réel. La plupart des autres peintres, quand ils font un portrait, s'attachent beaucoup à l'anatomie de la personne qu'ils représentent. Et donc sont fidèles au trait. D'ailleurs, portrait, c'est ça que ça veut dire, hein, c'est pour trait, en gros. C'est vraiment une sorte de principe d'imitation. Donc avec le portrait, on arrive aussi au point culminant, si vous voulez, de ce que Giotto avait entamé, c'est-à-dire le principe d'imitation, puisque là, on n'idéalise pas le corps que l'on représente, au contraire, on en traduit les traits. Alors ça, c'est de... alors, ce n'est pas des artistes connus, c'est Bembo, je ne sais plus comment il s'appelle son prénom, Bembo, donc 1460, c'est quelques années après. Alors ici, attention, ce n'est pas la même personne, ça c'est le duc de Montefeltre, Frédéric de Montefeltre, dont je vous ai montré le studiolo à Urbino, là, et sa femme, ici. Et alors ça, c'est la peinture de Piero della Francesca, dont vous avez déjà parlé, le grand peintre contemporain de Frangelico, contemporain de Van Eyck, hein, sauf que là on est en Italie, 1460. Alors là, c'est un portrait qui est très connu, notamment pour le paysage qui est derrière. Hein. La construction qui est absolument remarquable, il se regarde tout en étant séparé, réuni par le même ciel et par le même horizon. Chacun dominant ses propres terres et réunis dans un cadre. Un petit peu comme les époux Arnolfini sont réunis par le miroir, ils nous font face, sont réunis par le lustre, par le miroir, par le chien, par la main, ils sont dans la même pièce, là ils sont dans le même cadre, et ils sont aussi réunis par l'espace. Et leur regard, cette fois-ci, hein, qui se font face. Il y a quelque chose qui est classique aussi de la Renaissance, c'est la tête est clairement dans le ciel et le corps sur la terre. Hein, on va dissocier, alors ça c'est ce qu'on appelle le néoplatonisme de la platonicisme de la Renaissance, c'est-à-dire qu'on associe l'esprit, la tête, le cerveau et les idées au ciel, à l'azur, à l'infini, et le corps à la terre, la chair, les choses physiques. Hein, et donc là, vous avez, dans un portrait quand même humain, profane, vous avez une mise en scène qui s'inspire de la philosophie quand même de la Renaissance. Piero della Francesca, c'était un très grand perspectiviste, un ami de Pic de la Mirandole, qui connaissait très bien aussi, comment il s'appelle, Luca Pacioli, qui a écrit La Divine Proportion, hein, donc sur toutes ces notions-là, géométrie, philosophie, religion, Piero della Francesca est au courant de tout. Donc même dans un portrait, on est profane, le voilà. Alors le sujet aussi, c'est Triomphe de la chasteté, et là vous avez le recto, il y a le recto verso de ce tableau, où l'on a ici les chars, où là, enfin, si on zoome, on voit encore Frédéric de Montefeltre en armure ici, qui va vers sa femme ici, la duchesse, avec des animaux ici, qui sont ici des chevaux, mais on dirait presque des licornes, symbole de la chasteté aussi, normalement, hein, qui sont là. Alors, la chasteté étant aussi l'idée de triompher du corps par l'esprit. C'est la chasteté en termes qu'on ne se laisse pas aller aux passions, etc. Donc vous avez cette idée aussi de maîtrise, hein, du corps par l'esprit. Et là, on est vraiment dans le néoplatonisme de la Renaissance, alors là, avec quelque chose aussi de très harmonieux, qui n'est pas, il n'y a pas de tragédie, hein, ils vont quand même l'un vers l'autre. Donc voilà, une sorte d'objet, mais pour deux contemporains du peintre. Alors attendez, là j'ai une meilleure définition. Donc on voit un petit peu, voilà, la duchesse, avec des licornes qui ont un air un petit peu de dragon. Alors, on n'est pas loin non plus de la déesse Cybèle, hein, Ishtar, Inanna, Astarté, Cybèle, toutes ces femmes-là qu'on a vues trônant sur des chars ou des trônes avec des bêtes fauves. Hein, donc là encore, il y a très, très clairement des réminiscences d'iconographie féminine divine. Alors, dans les jeux sur les époux, il y a aussi quelque chose qui est très connu à la Renaissance, c'est la fameuse chambre des époux qui est à Mantoue, au Palazzo Ducale et au Palais Ducal de Mantoue. Hein, et là, certains d'entre vous ont peut-être vu la pièce, hein, la chambre qui est entièrement peinte de fresques, où vous avez justement les époux, hein, le duc de Gonzague, hein, c'est les Gonzaga qui sont à Mantoue, le duc et sa femme, avec leurs petits-enfants, leurs enfants et leurs petits-enfants, hein, qui sont représentés ici. Alors, un vrai portrait, un portrait de groupe, cette fois-ci, qui occupe toute la pièce. Alors, la pièce est relativement grande. C'est un véritable effet de trompe-l'œil. Et ce que vous avez donc au plafond, alors là, vous avez au plafond alors quelque chose qui est assez drôle, quelque part. Bah, au-dessus du lit, hein, vous avez cette espèce d'oculus, une ouverture en trompe-l'œil, sur laquelle vous avez une balustrade. On voit des petits poutis, des angelots, des cupidons, hein, où on mélange aussi tradition gréco-romaine du cupidon et le petit ange, avec les oiseaux comme le Pan, qui est aussi l'oiseau qui a mis lieu, c'est Argos qui est là pour surveiller les adultères. Hein, on dit que c'est Athéna qui a mis les yeux sur Argos, sur le Pan, pour surveiller Zeus, ou Junon, ou Jupiter. Donc le Pan. Et puis vous avez ici donc des témoins de leur union, en fait. Des témoins de leur union, célestes, etc. Donc là encore, hein, unis. D'abord, ils sont sous contrôle social avec toute leur famille et leurs dépendants, on va dire. Et aussi sous le contrôle un petit peu céleste, hein, avec quelque chose, une sorte de mise en scène de la chambre, hein, que l'on voit ici. Alors voilà l'ensemble de la chambre. Là, le document n'est pas de très bonne qualité. C'est dur de reprendre. Et puis, c'est le grand peintre de la Renaissance, Mantegna, hein, M-A-N-T-E-G-N-A. Maintenant, pour la visiter, le temps est minuté. Hein, vous avez le droit à un quart d'heure dedans, puis oui, après, vous passez. Il faut tricher. Faut... Et puis, comme il n'y a pas de lit où se cacher, il n'y a plus de meubles, on ne peut pas se cacher dans un endroit. J'ai réussi à tricher parce que en voyage scolaire, j'accompagnais. Ils avaient fractionné les groupes, donc j'ai fait avec plusieurs groupes, en prétextant que j'avais besoin d'être là. J'ai pu y rester longtemps. Alors, vous voyez l'idée quand même du couple profane devient quelque chose de fondamental. On le retrouve dans plusieurs peintures de la Renaissance. Par exemple, ici, jusque dans la peinture. Alors, ça donne l'occasion aussi aux peintres de rentrer dans le monde réel. Puisque le principe d'imitation ici, ou de portrait de groupe, c'est pas uniquement... Alors, juste un truc, hein. Il faut imaginer ça, c'est vraiment Don Corleone, hein, qui fait avec tout... Mais c'est vrai, ceux qui viennent rendre hommage au... C'est le duc, mais enfin, c'est le chef mafieux de... Tous ces grands chefs de cités italiennes sont effectivement... C'est des gens, alors, ils payent les œuvres, etc. Ils ont dans leur poche tous les prêtres, les curés, les évêques du coin, et puis les artistes, etc., qui viennent les célébrer. Mais c'est un pouvoir familial, effectivement, hein, de duc, d'union, etc. Et là, vous avez justement la procession de tous ceux qui viennent rendre hommage, et même, sans doute même, regardez, peut-être, est-ce que c'est pas un... On a presque l'impression que c'est un tueur à gages qui va éliminer, machin. Donc, là, on est vraiment... Là, on est dans le temps, et là, c'est assez drôle, parce que les époux Gonzague se trouvent au milieu, ça le paradoxe, ils vont se retrouver au milieu d'une peinture et eux vont vieillir et la peinture en même temps ne vieillit pas. Donc là il y a aussi cette idée de le paradoxe du portrait sans idéalisation. Vous avez donc des ambiguïtés intéressantes. Alors, ça c'est un portrait de couple très célèbre. Alors, voilà encore d'autres photos. Hein. Alors j'ai trouvé ce portrait qui est assez extraordinaire. C'est le peintre Hans Burgmeier et sa femme, Anna, mais qui sont peints par Luca Furtnagel, donc c'est un autre peintre, qui a d'ailleurs signé ici. Donc on retrouve alors c'est 1529, c'est quand même plus tard, mais vous avez quand même le peintre aussi qui témoigne de l'union du peintre et de sa femme. Et comme je vous parlais du temps qui passe, vous avez ici un miroir, et dans le miroir, vous avez deux squelettes. Et avec ici, alors je ne sais pas ce qui est marqué, Fremdisch, je ne sais pas quoi, Selbst, soi-même, je ne sais pas quoi. Donc là, on est vraiment, vous voyez, dans cette idée aussi de la métaphysique, aussi de la vanité qui commence, la notion de vanité en peinture. Et on va voir d'ailleurs que ça s'approche, y compris dans les peintures que je vous ai montrées jusqu'à présent. Donc voilà différents portraits couples. Alors, il y en a sans doute d'autres, hein, je vous ai montré parmi les plus célèbres, hein, d'hommes et de femmes, avec cette idée de l'union de la naissance, mais aussi de la mort ou du temps qui passe, le rapport avec la société, le monde, la mort, etc. Alors je continue, parce qu'il y en a d'autres. un qui va être connu aussi, mais là ça devient un peu différent, c'est les portraits de couple cette fois-ci, mais dans une fonction sociale réelle. Alors, un des premiers, si ici vous avez un couple d'orfèvres, ici, qui sont dans leur boutique, et ils ont une sorte de validation, on va dire, chrétienne ou religieuse, c'est de voir Saint-Éloi comme orfèvre. C'est-à-dire que Saint-Éloi, ils sont avec leur saint patron, si vous voulez. Donc c'est un portrait de couple dans leur activité commerciale, économique, et avec une sorte de justification religieuse, chrétienne, du bienfait du commerce. Alors là, on est en Flandre. Hein. En Flandre, le système économique est différent du système crypto-mafieux, enfin, presque mafieux italien. Hein. Vous avez au contraire, ça repose beaucoup sur le commerce, beaucoup plus que la féodalité. En Flandre, c'est beaucoup plus moderne, et la richesse vient non pas de l'exploitation des terres, mais beaucoup plus de artisanat-commerce. Hein, orfèvrerie, tissu, moulin, presque début de l'industrie. Il y a déjà une sorte de bourgeoisie qui existe, hein, ce qui fera dire d'ailleurs que la Hollande, c'est pour ça qu'elle va être beaucoup plus moderne sur pas mal d'idées, enfin Pays-Bas, puisqu'ils sont sur un modèle économique qui est beaucoup moins hiérarchisé et féodal. Et en France, d'ailleurs, la tension qui va durer plusieurs siècles entre une structure féodale et déjà une activité économique dans laquelle il y a une bourgeoisie très forte, débouche sur la Révolution française, avec, à cause de ce hiatus entre les structures et l'économie réelle. En Flandre, il y a une acceptation et une valorisation, y compris des acteurs de l'artisanat. On ne trouve pas en France de portrait équivalent, de commerçants ou d'artisans, etc. Et vous voyez ensuite, la fortune est donc licite. Hein, ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Ce qu'on verra plus tard avec les protestants en Hollande, hein, c'est que les protestants vont considérer que s'enrichir, ce n'est pas du tout. Il n'y a pas de culpabilité à l'enrichissement. Et on le voit d'ailleurs dans la richesse étalée de ces personnes, qui est le signe de leur bien-être. Et vous avez aussi quelque chose qu'on trouvait déjà dans les sculptures égyptiennes, rappelez-vous, ce couple, ils se tenaient par les bras ou par la main, etc. Ils sont tous les deux complices, hein. Et alors, je reviendrai tout à l'heure sur les détails, et vous avez aussi un petit miroir.
Le miroir.
Hein, et je reviendrai aussi tout à l'heure sur les petits miroirs qui ont une fonction vraiment aussi intéressante. Attendez, et puis il y a même aussi, sauf qu'on ne voit pas ici, la signature. Hein. Ah, mais zut. Voilà. Hein, vous avez donc ici le peintre qui signe. Aussi.
Il s'appelle comment ?
Alors, ce peintre-là, c'est Petrus Christus. Petrus Christus qui est un peintre flamand de la fin du XVe siècle. Alors celui-ci qui est très connu, évidemment, de Quentin Metsys, qui est le prêteur et sa femme, Quentin Metsys, M-E-T-S-Y-S, le prêteur et sa femme, où là aussi ils sont en train de prêter de l'argent, mais la femme ici tient un missel, c'est un livre de prière dans lequel vous avez Marie, l'enfant, etc., Jésus, donc il y a une sorte d'activité, elle aussi, qui est quelque part validée par la religion. Donc le portrait, à chaque fois, hein, c'est un portrait, y compris ce sont deux personnages, qui sont à égalité dans leur activité. Elle n'est pas du tout à côté de la plaque, elle est vraiment en train de regarder ce que fait son époux. Et là encore, le miroir, hein, que l'on voit ici, je reviendrai tout à l'heure sur des détails du miroir, quelque chose de très intéressant, des miroirs bombés, évidemment. Et derrière, je reviendrai aussi sur ce que l'on voit à côté. Alors, un espace, cette fois-ci, assez clos, mais... Alors attendez, excusez-moi, je zoome assez souvent, mais vous allez voir, il y a quelque chose que j'ai, par contre, j'ai découvert. Il y a une fenêtre, on voit une scène derrière, c'est-à-dire qu'il y a intérieur-extérieur. Donc on voit quelque chose au-delà, et on voit quelque chose en amont avec le miroir. Donc tout en étant dans un espace clos, c'est quand même ouvert. Parce que ça, c'est un des grands jeux de la peinture, c'est toujours montrer des espaces en même temps fermés et en même temps ouverts. Puisque la peinture, elle est à la fois justement panneau, mais aussi fenêtre. Et aussi quelque part miroir. Alors donc, Quentin Metsys, hein, ça c'est une peinture très connue. Là, vous avez un peintre que je ne connaissais pas, qui s'appelle Marinus van Reimerswaal. Alors, Reimerswaal, R-E-Y-M-E-R-S-W-A-E-L-E. Et là, on revient aussi dans ce que je vous disais. Alors là, on s'approche un peu de la caricature quand même. Là, il y a une sorte de présentation de ces personnages qui ont une sorte de richesse mais très superficielle sur le chapeau, mais qui font plus grippe-sous et avare que... alors, Là, on est effectivement dans une approche un peu plus critique. Hein, c'est 1540, hein, donc c'est quand même plus tard. Un autre peinture de Marinus von Reimerswaller, Le Changeur et sa femme, qui va reprendre le même thème. Mais alors là aussi, le document est de. C'est au Prado, hein, j'ai pas eu de meilleur document. Et là, cette fois-ci, ce sont deux amis. Hein. Alors, les dates de Reimerswaller, c'est 1490-1567, dans lequel on va retrouver des constantes, hein, y compris les sous, l'argent, le compte. Alors, c'est la naissance de la banque hein, aussi, toutes ces choses-là qui vont naître, les prêteurs, les usuriers, éventuellement, alors plus ou moins licites. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Là, c'était donc les portraits doubles, jusqu'au portrait de deux hommes. Hein. Donc, il y a une sorte de fortune là-dessus. Alors maintenant, quelque chose qui est aussi une sorte de conséquence, quelque part, de ces portraits, avant de voir sur la signature, etc. Non, je ferai ça d'abord. L'idée de la présence, hein, parce que vous avez vu presque tous ces portraits, surtout quand c'était des couples avec une commanditaire, moins dans la caricature. Alors là, ce qu'on a vu là, du précédent, on était... Excusez-moi, parce que j'ai oublié de le dire. Quand on est avec, j'oublie son nom, Reimerswald, là, ici, on arrive dans quelque chose qui n'est sans doute pas une commande du couple. Et donc, on arrive dans un nouveau type de peinture, et ça, c'est quelque chose qui va naître en Hollande, ce qu'on appelle la scène de genre. La scène de genre où, justement, là, vraisemblablement, le peintre s'écarte d'une commande de portrait. C'est sans doute, on peut imaginer, c'est une hypothèse, que cette peinture-là est peut-être faite par quelqu'un qui veut se moquer de ceux qui lui ont prêté de l'argent ou de ceux qui lui ont fait du crédit. Si vous voulez, là, vous avez sans doute une scène de genre, hein, puisque là, on n'est plus du tout dans un portrait qui célèbre l'activité, hein, alors que dans les portraits précédents, on était dans quelque chose qui était beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus respectueux des deux personnes, etc. Hein, là, on est au contraire à la limite de la caricature. Alors, là, ce qu'on appelle la scène de genre, ce sont toutes ces scènes-là, toutes ces peintures qui se détachent clairement du religieux et du portrait, ou du mythologique, ou de l'historique. Et c'est notamment autour de ces portraits que l'on va voir, et ça va donner naissance aussi à quelque chose, dans la scène de genre, mais aussi ce qu'on appelle les paysages et les natures mortes. Alors, en fait, ce qu'on a constaté... sans doute beaucoup plus dans ces peintures flamandes. C'est qu'en fait, vous aviez un sujet religieux ou un portrait, etc. Et en fait, vous avez une multitude de détails qui sont presque des peintures à part, des peintures en soi, et qui vont donner ensuite ce qui va naître en Hollande pendant deux ou trois siècles, bien avant même la France et l'Italie, c'est par exemple les natures mortes et les paysages et les scènes de genre. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a l'idée que la tradition flamande et hollandaise, notamment, globalement à la Renaissance, on va accepter le principe d'imitation. On va regarder les choses pour qu'elles sont, les visages, mais y compris les objets, la nature, les matières, la richesse, les textures, les tissus, l'or, la brillance, etc. On a vu qu'il y avait des enjeux divers et variés, mais vous avez en fait une sorte de présence remarquable dans ces objets, une maîtrise de l'artiste, et puis vous avez ce qu'on appelle le trompe-l'œil, qui va devenir aussi une œuvre philosophique. Hein. Et vous allez voir aussi un enjeu qui va être aussi religieux. Et là, par exemple, c'est un détail de la peinture avec Saint-Éloi, hein, où vous avez effectivement le plaisir de représenter différentes textures, différentes manières, un corail, des verres, des bijoux, du cristal ou de la glace, ici peut-être un bout de métal, des perles, des petits crânes, on dirait des petits crânes d'oiseaux, des billes, etc. Donc, tout un état de la lumière et une sorte de cabinet de curiosité. Ce qu'on verra plus tard aussi, les cabinets de curiosité, mais alors là, beaucoup plus tard, c'est tout d'un coup cette diversité du monde représentée en peinture. Donc, ça, c'est un des enjeux, mais on verra qu'il y en a d'autres. Là, c'était au-dessus du prêteur et sa femme. Et là, vous avez alors le temps qui passe. Vous avez aussi... eh bien, les billets, sans doute, de l'argent. Et vous avez cette idée aussi, avec l'âge aussi, les personnes âgées, on commence à réfléchir justement à la vieillesse, à la vanité des choses. À la fois, on est fasciné, et en même temps, ce ne sont que des choses. ce ne sont que des valeurs provisoires. Et donc, dès la Renaissance, le thème de la vanité qu'on va voir au XVIIe siècle se répandre de façon très très claire, se pointe de façon un peu détournée dans ses portraits, puisqu'on n'est plus dans le religieux, on s'écarte un petit peu. Alors, autre chose qui fait qu'en Hollande, ça va avoir un grand succès, alors, dès le XVIe siècle, c'est les protestants. Les protestants, Luther, Calvin, etc., vont bannir la peinture religieuse. Donc, si vous voulez, les peintres flamands vont se déporter vers des peintures non religieuses, des portraits, des natures mortes, des paysages. Donc, si vous voulez, vous avez quelque chose qui va être assez logique, c'est aussi tous ces peintres flamands vont assez naturellement aller vers des genres, peintures de genre, portraits et natures mortes, qui sont non religieux, mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit déjà ça poindre dans les détails, regardez là aussi, et vous avez vu que c'est très proche, on retrouve à peu près les mêmes, les choses qui se fanent, les billets oubliés, la bougie éteinte, etc. Alors, et ici, on avait même ça, là encore, la bougie éteinte, là, c'était la fleur de lys de Marie, c'était une peinture récente, le tissu, quand on fait certains détails, là aussi, c'est de Quentin Metsys, certains détails de la peinture. Alors, on appelle ça aussi des morceaux de bravoure et des trompe-l'œil. C'est que, alors là, la vanité devient même encore franchir un cap supérieur, parce que ça questionne sur les sens. Puisque si on peut tromper l'œil, on peut tromper l'ouïe, on peut tromper le goût, on peut tromper le toucher, et on peut même tromper l'œil, et donc on doute de tout. Donc si vous voulez, on n'est jamais qu'au XVe siècle, mais il faut attendre presque 200 ans, 200 ans, pour que, en Hollande, un certain René Descartes, effectivement, aille jusqu'au bout du doute absolu. Je doute de tout, donc, sauf du fait que je pense. Et donc, je suis. Et si vous voulez, le chemin de la vanité et du doute commence assez vite sur déjà le trompe-l'œil, puisqu'on peut tromper l'œil. Et ça nous amène justement au miroir, puisque là, on est dans quelque chose qui est. Et à la lumière, si un peintre réussit à nous faire croire à la présence de quelque chose alors que c'est faux, à la fois il est maître de son travail, il est maître de la lumière, et en même temps, ça veut dire que on est soi-même extrêmement fragile puisqu'on peut être trompé. Alors là, évidemment, donc vous voyez de très vite ce principe d'imitation qui était un principe un peu religieux, de curiosité, de découverte du monde, est assez vite questionné de façon philosophique. Et de façon très lointaine, très très. Quand on remonte, c'est. Et là, par exemple, ça c'est de Van der Weyden, c'est donc l'annonciation de Van der Weyden, et on peut zoomer, et là on est dans une sorte de perfection remarquable. Alors là, j'ai un document de bonne qualité, il n'y a toujours pas de pixels. Et là, c'est tout petit de la peinture, rappelez-vous. Et les craquelures, évidemment, sont pas du fait de Van der Weyden, ça c'est là. C'est la toile qui s'est un peu. Pas la toile, la peinture qui s'est un peu écaillée. Et c'est juste un tout petit détail de sa peinture. Et vous avez donc y compris le paysage par la fenêtre. Ça, on avait vu plusieurs fois le paysage. Eh bien, c'est un peu la contemplation. Alors, on a vu qu'il y avait l'idée un peu de l'infini, mais il y a aussi, tout à coup, la beauté du paysage pour lui-même, la contemplation. Et là, c'est le regard, au contraire, qui peut se perdre au loin. Donc, cette espèce de... qui plus tard débouchera sur le romantisme du paysage, Turner, Caspar David Friedrich, et puis les impressionnistes français, ça va être tout d'un coup le paysage comme un sujet à part entière. Alors, c'est traité de façon mineure dans ces œuvres-là, puisque c'est un décor, mais c'est un décor qui gagne en autonomie, évidemment, surtout quand il est vu par une fenêtre, qui est tout comme un tableau. Tout d'un coup, il y a cette idée que c'est une fenêtre, mais est-ce que ça ne serait pas un tableau ? Alors, évidemment, tout nous dit que c'est une fenêtre, mais ça pourrait être un tableau. Et donc, vous avez là encore une subtilité conceptuelle. C'est après les miroirs. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu... Et ça annonce, vous voulez, des choses qu'on verra plus tard. Alors, je vous parlais justement du trompe-l'œil et du principe du miroir. Alors, le miroir convexe, on l'a chez les époux Arnolfini, donc voilà... C'est pareil. Alors là, j'ai trouvé un truc de qualité. Rappelez-vous que c'est tout petit. Sur la peinture, il doit être grand. Comme ça. À peu près, peut-être un peu plus grand. Plus petit qu'un 45 tours. Beaucoup plus petit qu'un CD. Taille d'un CD, à peu près. Ouais. Et là, vous voyez. Donc, et rappelez-vous aussi comment le lustre même est peint, y compris Alors, c'est assez incroyable, c'est-à-dire que la perspective, il la maîtrise au point de faire ce qu'on appelle le fish eye, c'est-à-dire une perspective bombée, hein, en œil de poisson, ou le Judas, sphérique, qui en fait est beaucoup plus vrai que la perspective à plat. Parce que notre œil est sphérique, et si vous voulez, l'image que l'on a, elle n'est pas plane, elle est sphérique. Et quelque part, ces artistes-là, par des codes de représentation, ils font leur perspective à plat sur un panneau rectangulaire, mais ils savent très bien que finalement, peut-être la vision naturelle, elle est beaucoup plus proche d'une vision comme ça, bombée. Hein. Et ils sont capables de faire effectivement des figures, des formes presque elliptiques, hein, pour aller vers un point de fuite quand même commun, et des courbes ici, puisque vous avez là, regardez là, le coffre ici, ce sont là c'est légèrement courbe, c'est qu'effectivement on est avec des sortes de paraboles ici, qui convergent toutes sur le point. Alors, on a beau zoomer, on a du mal à repérer qui est qui, où est Van Eyck, hein, mais vous avez toujours ce côté absolument génial de l'envers des choses, de l'illusion, le peintre est à la fois dehors et dedans, il est devant la toile et dans la toile, donc quelque part le peintre est aussi tout puissant, parce qu'il est maître des illusions, il est maître de la représentation, il est à la fois témoin de la réalité du couple, etc. C'est aussi le grand metteur en scène de façon discrète.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle perspective en abîme?
Alors, la perspective en abîme, ce qu'on appelle la mise en abîme.
Présentation
en abîme, non, c'est pas tout à fait ça. C'est quand on voit la même chose qui se répète à l'infini, par exemple dans un miroir, ou ce qu'on appelle la vache qui rit, par exemple, etc. Là, enfin, on se rapproche de cette idée-là, quand même. Mais plus qu'en abîme, il y a cette idée d'une sorte de totalité. La mise en abîme, c'est plus... la multiplication à l'infini de la même chose. Comme, voilà, donc...
comme les fractales.
Voilà, c'est ça. C'est un principe fractal, des miroirs qui se renvoient la même image, et tout d'un coup, voilà. Alors, en peinture, il y a des clins d'œil, hein, mais on en verra d'autres, qui sont plus du côté de la mise en abîme. Là, c'est cette fameuse peinture de Robert Campin. C'était aussi le Jean-Baptiste. On voit presque Jean-Baptiste qui était ici avec l'agneau. Tout d'un coup, il se retrouve... Il était devant une scène beaucoup plus, je veux dire, noble, et le voilà presque projeté dans une sorte de pièce toute sombre, dans une sorte de réalité brute. Et là, alors là, on voit la fenêtre qu'on voyait en partie, on la voit mieux ici. C'est ce qu'on va voir aussi souvent dans le miroir. Alors là, on se rapprocherait un petit peu de l'abîme, c'est que d'un coup, on s'échappe, ou d'un coup, on est pris un peu de vertige quand même. C'est que d'un coup, on voit mieux dans le miroir la réalité. Le miroir nous renvoie quelque chose qu'on n'avait pas vu dans une première vision. Comme par exemple, ici aussi, dans le prêteur et la femme, là vous avez quelque chose qui est comme une sorte de dévoilement aussi du point de vue du peintre. Puisque tout d'un coup, on peut penser ici que c'est le peintre qui est en train d'étudier, et on a derrière lui, en contre-plongée, on voit le ciel, hein, parce que le miroir est par terre, là aussi, ce sont des jeux remarquables sur... la mise en scène, qui voit quoi, qui est témoin, puis quelle est la réalité du peintre aussi. Alors aussi, on a le dévoilement de celui qui est en train de peindre. Hein, ça aussi, c'est vraiment très intelligent, très subtil, sans parler du regarder le travail d'ombre et de lumière sur le miroir et dans le miroir. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi est une manière pour le peintre de manifester sa présence, donc par la signature, mais aussi par le miroir, ou de montrer sa réalité à lui, puisqu'il est en train de montrer un monde... mais il révèle aussi son monde, hein, de façon détournée.
Mais sans se montrer.
Sans se montrer. Alors, un petit clin d'œil, alors j'y reviendrai, dans certains manuscrits, regardez ça, et ça c'est très souvent sur des femmes, et on verra le principe des autoportraits de femmes, dans des manuscrits anciens, beaucoup plus anciens, si on retourne en arrière, on va retrouver assez souvent des enluminures où on voit des femmes qui font leur autoportrait en se regardant dans le miroir. Le principe de la signature et du miroir, comment est-ce que le peintre manifeste sa présence dans la peinture? Chose assez étrange, c'est très ancien. Hein, c'est très ancien. Vous avez ici cette femme artiste, peintre, qui se regarde, et dans l'intimité de son... Alors là, c'est un monde intérieur, mais dans son monde intérieur, bah, elle se regarde dans le miroir, elle se regarde dans la peinture. C'est aussi sans doute dû au statut des femmes qui n'avaient pas de commande publique, hein, qui se retrouve aussi, pour faire des portraits, à se prendre elle-même comme modèle. Et donc, le principe d'autoportrait est extrêmement développé chez les femmes artistes pendant des siècles, jusqu'au XXe siècle. Puisque, très souvent, elles n'ont pas le droit, théoriquement, d'être peintes. Certaines le sont. Et quand elles le sont, eh bien, elles sont un peu confrontées à cette espèce d'intimité de l'atelier ou de... Alors, attends, pourquoi...
Ah, non, ça c'était un autre. Mais là, c'était pareil. On voyait la rue, je ne l'ai pas bien rangé. On voyait la rue, on retrouvait avec un miroir extrêmement bombé. Bah, ça me fait juste une petite incise sur l'optique. L'optique, c'était lié évidemment à la perspective. Alberti, on verra plus tard, c'est lié à l'optique. Hein, avec cette idée du point de vue unique, monoculaire, etc. Les lentilles, ce qu'on appelle les lentilles, les verres, ce sont des choses qui vont se développer énormément du 15e siècle, 15e, 16e, 17e, puisque Spinoza, Descartes, par exemple, tous ces gens-là vont être des spécialistes du polissage de verre et des fabriques de lentilles, hein, de verre, pour étudier les chemins de la lumière. Et on sait très bien que c'est ça qui va faire la révolution copernicienne, c'est la lentille, c'est la lunette. Enfin, si vous voulez, derrière la façon de voir, ce que l'on voit, comment on voit, vous avez des enjeux remarquables, puisqu'effectivement, façon de voir, le point de vue, sont des choses qui sont au cœur. Et la peinture en est totalement témoin, comme ça. Alors je reviens à la question des autoportraits et des femmes en autoportrait. Regardez ici, ça c'est Christine de Pizan en train d'écrire, mais elle a son petit miroir à côté. Hein. Donc, ici. Là, on la voit encore en train d'écrire, donc toujours Christine de Pizan, avec son petit chien dans sa maison. Là, vous avez encore cette femme en train d'écrire. Et là, vous avez encore cette femme peintre. Alors là, c'est absolument génial, parce qu'elle est peintre et sans doute sculptrice. Puisque vous avez ici le maillet, vous avez les choses pour broyer les couleurs, vous avez le pinceau, la palette et les couleurs ici, et le miroir ici. Donc ce sont des petites enluminures. Alors ces enluminures, pourquoi je parle de Christine de Pizan? Parce que c'est Christine de Pizan qui a réhabilité la mémoire de certaines femmes réputées pour être artistes dans l'Antiquité ou au temps médiévaux, etc. Christine de Pizan, donc, à peu près 1370, peut-être à peu près 70, et elle est morte un peu avant la mort de Jeanne d'Arc. Elle a dû mourir vers 1425, un truc comme ça. Peut-être un peu plus. Donc, si vous voulez, Christine de Pizan, elle, et donc dans les illustrations de Christine de Pizan, vous allez voir des activités féminines autour de l'autoportrait, du miroir. Et ça, je vous l'ai déjà montré. Là encore, cette femme artiste qui est en train de tailler un petit peu son outil avec la calame, sa plume. Alors, tout ça parce que le monde, effectivement, est là encore, avec aussi un miroir, ici. Alors, ce monde intérieur, justement, alors quelque part, on est le monde intérieur dont on sort aussi par le miroir, comme on a vu dans les époux Arnolfini, la femme est un peu cantonnée au monde intérieur, mais dans ce monde intérieur, il n'y a pas que le lit, justement, il n'y a pas que la maternité, vous avez aussi, et Christine Pizan le montre et l'affirme, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont intellectuelles, parce que justement, chez elles, elles sont un peu cantonnées, donc elles lisent beaucoup, elles sont souvent plus lettrées, plus cultivées que leurs compagnons, maris, etc., hommes qui sont dehors à faire les affaires, etc. Elles sont souvent du côté du savoir, de la culture, et certaines, effectivement, aussi du côté de la pratique artistique, parce que ben, la pratique artistique, le dessin, etc., on dit ça c'était bon pour les moines et les artistes, ou les femmes. Mais si tu veux, c'est une activité qui n'est pas considérée comme majeure, comparée à un chevalier, comparée à un chasseur, etc. Donc si vous voulez, à la limite, il y a vraisemblablement eu beaucoup plus même de femmes artistes que ce qu'on pense. Ça, c'est... Alors, c'est une hypothèse, mais c'est très vraisemblable. Parce que là, on n'est qu'au début des documents. Hein. Si on fouille, on en trouvera sans doute d'autres. Hein. Donc, on continue. Alors ça, bon, ça, je vous ai montré. Alors, regardez celle-ci, hein, qui est très belle. Même peintre de portrait, avec le costume magnifique, effectivement. Donc, là, une femme noble. Là, encore, non, encore une femme peintre avec le miroir ici et la sculpture, avec les outils, toujours. Et celle-ci, je vous l'ai montré. Pourquoi il est là, celui-là? Ah oui. Donc, non, c'était sur la signature du peintre. Donc, c'était une façon de dire que l'idée que le peintre se pose des questions sur qui il est, où il est et ce qu'il est en train de faire, on le trouve de façon manifeste à la Renaissance dans les portraits, dans les peintures, mais dans les manuscrits, ce sont déjà des choses qui sont présentes, et notamment du côté féminin. Aussi, pourquoi est-ce qu'elle se pose cette question? Pourquoi est-ce qu'elle le valide par la peinture? Parce que personne n'est là pour le valider à leur place. L'artiste homme, il va être validé par la société. La femme artiste, elle, pour se prouver qu'elle est peintre, elle est obligée de se peindre elle-même ou signer elle-même.
Donc vous avez un côté un peu performatif aussi, du genre, c'est bien moi qui ai fait ça, je suis là, je suis bien un artiste, la preuve, je me fais, je me peins et je signe. Et c'est antérieur même aux autoportraits masculins. La plupart du temps, on ne traite quasiment pas de miniatures de la Renaissance où on verrait des hommes en train de créer comme ça. Y compris avec cette espèce un peu un enfermement aussi, parce qu'elles sont cloîtrées, mais dans ce monde, elles essayent quand même de s'en sortir par la pratique artistique de façon vraiment très intéressante. Alors, le peintre qui signe, et on a vu avec Van Eyck, alors on va le voir chez d'autres artistes, hein, par exemple cette idée du papier et de la signature, de l'écriture dans la peinture. Alors là, ça c'est la peintre du Doge de Venise par Giovanni Bellini, le grand peintre de la Renaissance vénitienne, et qui signe hein, en datant. Donc Giovanni Bellini a peint cette peinture à chaque fois. La présence du peintre, là aussi. Hein. Alors ça c'est un portrait. Excusez-moi. Bernard van Orley. Bernard van Orley, c'est le peintre. Ici, il s'agit Charles V. Mais c'est pas le Charles V français. Hein. Et vous avez ici la date, ici, sur un bout de papier, qui est. Et il l'indique du doigt, quasiment. La date à laquelle cette peinture a été faite. Là encore, vous avez un portrait de Franciabigio, un peintre italien, dans lequel vous avez encore ces instruments du travail, de l'écriture, du dessin, de la peinture. Alors ça aussi, c'est assez émouvant de voir la peinture qui rend hommage aussi à l'écriture. À l'écriture comme quelque chose qui valide peut-être ce qui n'est qu'une illusion. Parce que ça aussi, c'est cette idée, les peintres savent bien que la peinture ne peut être une illusion, puisqu'il y a le miroir, il y a le trompe-l'œil. Quelque part, la signature et l'écriture, c'est aussi une manière de dire « j'aurais pu vous tromper », donc c'est vrai. Ce que j'ai mis, c'est vrai, c'est pas une fiction. Le peintre sait très bien qu'il peut faire une fiction, il peut faire Jean-Baptiste, il peut faire Jésus, il peut faire ce qu'il veut, donc il pourrait inventer ce qu'il veut. Donc en découvrant sa toute-puissance, il est aussi parfois tenté par cette espèce d'acte un peu de signature. Alors, il y a plusieurs effets, comme ça, c'est une peinture de Giorgione, alors la reproduction est de mauvaise qualité. Et là, elle se montre, et il y a marqué « col tempo », donc avec le temps, eh bien, je vieillis. Donc cette idée aussi de la vanité, les choses qui passent, parce que la peinture, elle ne passe pas, mais les personnes, quand elles sont de vraies personnes qui sont peintes, elles vont vieillir. Alors on a vu que c'était aussi un thème qu'on voyait, la vanité, le temps qui passe, et la peinture se rend compte aussi que, en imitant la lumière si éphémère, elle la pérennise et elle la suspend. Et quelque part, la lumière sur la peinture reste, et les figures restent, mais tout le reste passe. Alors ça donnera plus tard les mythes du portrait de Dorian Gray, etc. Mais ce sont des choses que l'on voit. Alors là encore, hein, Vincenzo Catena, c'est un peintre de la Renaissance italienne, pas très connu, mais absolument remarquable. Hein. Et là, ici, et même en grand, hein, Vincenzo Catena, Picci, Lapin. Là, il y va. Là aussi, alors, un portrait de son fils, je pense, à l'âge de 12 ans. Hein. Donc là, on est vraiment, effectivement, aussi, tout d'un coup, cette idée de la peinture qui retient le temps, hein, puisque tout d'un coup, l'enfance, la vieillesse, les amours, les dates importantes, etc., l'intimité. Donc des enjeux qui sont remarquables. Ça, c'est Jan van Skorrel, hein, portrait d'un écolier. Et là encore aussi, l'écriture, et puis... du texte, etc. Et les outils de l'écriture. Là aussi. Bon, alors, la musique. Alors là, on a... Alors, la musique, la beauté, la jeunesse et les roses, ça aussi, c'est le début des vanités. C'est des choses qui vont passer. Des choses éphémères. Donc, ça aussi. Plus les peintres imitent le réel, plus ils savent qu'on est dans l'illusion, donc plus on est dans la vanité, etc. Là aussi, toujours de Bernardino Lucchino. Avec la date, hein, et toujours. Et là, vous avez, dans les époires non-finies, on a des regards flottants. Plus on va vers le portrait, plus on va faire ces questionnements très fins sur qui fait quoi, qui est où, on est vraiment dans la réalité, vous avez cette fois-ci des interactions de regards, des regards qui sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus présents, puisque on a vraiment quelqu'un qui regarde quelqu'un. Hein, donc là, on est dans un rapport immédiat. On n'est pas dans la construction d'un mythe ou la célébration d'une personne. On est vraiment dans un corps à corps visuel. Et ça se voit aussi dans ces regards qui sont de plus en plus actifs. Alors, juste je termine avec ça. C'est plus tard, hein, c'est au XVIIe siècle. Mais La question du regard, la question de qui regarde quoi, la question de l'instant. Bon, c'est évidemment la jeune fille à perle de Vermeer, mais vous avez aussi, alors là, de manière peut-être la plus belle qui soit, le miroir convexe dans la perle et dans les yeux, qui révèle la lumière de l'extérieur. Mais de façon, alors là, réduite au minimum, presque au concept, puisqu'effectivement, la perle ici est à la même fonction que le miroir précédemment, c'est-à-dire de renvoyer à un ailleurs, où est le peintre, à la lumière, etc. Et puis le fait qu'elle tourne la tête, vous savez aussi, c'est une manière d'affirmer encore plus l'instant. Et les yeux aussi, qui sont comme la perle, qui sont aussi le regard vers l'extérieur, mais aussi le regard vers l'intérieur. Donc là, le jeu sur le regard, c'est un enjeu fondamental dans l'histoire de la peinture. On peut dire que Vermeer, là, atteint un sommet. Alors là, j'ai trouvé un bon document, vous avez vu, on voit pas un seul pixel. Hein, là, je ne sais plus où j'ai trouvé ce document, mais il est assez remarquable. Et là, justement, vous voyez cette idée de transition hein, qui va très très loin et sur plusieurs siècles. Voilà. Alors, vu de près, on se dit, oh, ben, c'est jamais que des taches de peinture. Hein. Ouais. Mais elles sont bien faites. Ouais. Donc, alors. Ah oui, non, j'ai pas terminé. Vous avez, alors, je m'éloigne un petit peu du 15e siècle. Vous avez cet autoportrait stupéfiant du Parmesan, Parmigiano, donc le peintre italien du 16e siècle. Qui devait être surtout, hein, parce que c'est un autoportrait donc très jeune, où il se fait, lui, alors là on a vraiment, voilà, l'autoportrait dans le miroir convexe, là on voit bien qu'il y a une relation entre les deux, se voir déformé, hein, avec la main qui est en train de peindre, la fourrure, etc., et on devine plus ou moins ici la toile, et l'intimité de l'atelier, la fenêtre, ça c'est un chef-d'œuvre, alors c'est à Vienne, Kunsthistorisches Museum. Là, bon, je passe un petit peu. Alors, vous avez justement dans les femmes, et je ferai un chapitre exprès uniquement sur elle, c'est Sophonis Bangisola, qui est une femme du XVIe siècle, et qui est peut-être celle qui a fait le plus d'autoportraits, et en même temps, qui a eu peut-être une des premières à avoir des vraies commandes, hein, parce qu'elle travaille même pour Charles Quint, et qui ici signe de son monogramme, et ici... effectivement, elle est de Crémone, Sophonis Bangisola, donc elle signe effectivement dans une sorte de médaillon portrait d'une très grande modernité. Et alors là, le regard qui est prodigieux, hein, Sophonis Bangisola, on reviendra plus tard sur elle, puisque on a maintenant une bonne documentation sur elle. Nicolas Poussin aussi dans les autoportraits, alors il y a une histoire d'autoportrait, hein, évidemment, mais qui nous regarde aussi. Là, on a un regard qui regarde vers l'extérieur et il signe effigie de Nicolas Poussin des Andelys. Peintre à l'âge de 50, en 1640, il avait 50 ou 45 ans, je ne sais plus quoi. Donc, vous avez donc, en 1650, il a 56 ans, je crois. Donc, le voilà qui se peint, alors, avec les yeux sur la ligne d'horizon, la ligne d'horizon qui nous amène aussi vers la fiction. Donc, il est à la fois bien là, il y a les outils de sa peinture, puisqu'il y a l'étoile à l'envers. Donc cette idée aussi de l'envers des choses qu'on trouve dans les époires d'Olfini, avec on voit la toile à l'endroit, on voit la toile à l'envers, on voit le peintre qui se peint. Hein, cette image dans l'image, alors on n'est pas loin là, de la mise en abîme, si vous voulez, on s'approche de ces notions-là, hein, puisqu'on voit le carton à dessin, la main du peintre, l'œil du peintre, la date, l'âge du peintre, l'envers de la toile, le cadre qui décadre. Derrière le cadre, on voit un plan dans lequel vous avez une fiction qui nous montre une figure fictive qui regarde au loin, et derrière le mur. Donc on a la peinture comme fenêtre, la peinture comme cadre, la peinture comme fiction, la peinture comme réalité, la peinture comme trompe-l'œil, la peinture comme volume, la peinture comme noir et blanc, la peinture comme idée, etc., etc. Et la peinture comme couleur avec les trois couleurs primaires. Et la peinture comme question de regard, regard du peintre, regard fictif, etc. Donc jusqu'à... Alors, Poussin a réussi à faire condenser... Mais c'est quelque chose, vous voyez, qui trotte très clairement dans la tête des peintres depuis un bon moment. Eh bien, c'est bon. Je vais finir là. Donc, on va... Bon, c'était un voyage autour des époires d'Olfini. Vous avez des questions sur lesquelles on va reprendre, puisque j'ai prévu, je vous ai dit, notamment, même sur Sophonis Bangisola, je ne vais pas l'éliminer si vite, puisque j'ai prévu, voilà, Sophonis Ba, on reprendra quelques-unes des thèmes, alors je vais nourrir un peu en plus, là, mais c'est quelque chose que l'on verra sur l'autoportrait féminin et les femmes artistes à la Renaissance, 16e, 17e, etc. Alors, maintenant on retourne à Florence, et on va reprendre encore les questions de perspective, mais on va voir surtout cette fois-ci beaucoup d'architecture.
Florence et Rome. Et on va voir le Léon Battista Alberti, dont on a déjà vu certaines des œuvres. Le voilà. Alors, qui est un architecte, mais aussi un grand théoricien de la peinture et de l'architecture. Ce qu'il a écrit, vous avez des textes de Battista de l'architecture et de la peinture, et qui sont d'ailleurs très intéressants, hein, c'est remarquable, et notamment les traités de perspective, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui va mettre au propre, si vous voulez, les expériences optiques de perspective. Alors vous avez montré, je reviendrai sur les expériences de Brunelleschi ou d'Alberti à Florence, avec le baptistère, avec la place de la Seigneurie, etc., sur lesquelles ils essaient de confronter une expérience optique avec la réalité. Il y a toujours cette idée assez étrange de faire correspondre des visions, et même des imaginations, des constructions un petit peu empiriques, avec une expérience physique, optique. Donc il y a presque un côté scientifique de la vision et de la peinture. Parce que c'est une chose toute bête, mais on est tous confrontés à ça. Hein. Autant on peut avoir une sensation très physique et corporelle du toucher, du goût, de l'ouïe, on peut avoir mal aux oreilles, etc. L'odorat aussi, c'est très physique, c'est très corporel, le nez, le goût, etc. Autant les yeux, on voit quelque chose de béant, on n'a jamais la conscience que ça passe par un tout petit orifice, la pupille. On n'a jamais la conscience physique de la vision. Sauf quand on commence à avoir mal aux yeux, mais, etc. Mais si vous voulez, la plupart du temps, on voit presque une sorte de béance comme ça, totalement naturelle, alors qu'en fait, c'est corporel. Mais cette dimension corporelle de l'optique et de la vision, on n'en a pas conscience. Au point même que des gens comme Alberti et d'autres pensent qu'on voit grâce à des rayons qui viennent du corps. Ils pensent que c'est pas... c'est un peu plus compliqué à dire, j'ai toujours pas très bien compris ce qu'ils disent, mais ils disent que ce sont des rayons visuels qui partent de l'œil et qui vont parfois se poser sur les choses. Plutôt que l'œil qui recevrait la lumière, ils pensent que ça part du rayon visuel. Et c'est pour ça que cette idée de point de départ de l'œil, qui correspondrait aussi à un point d'horizon, cette idée du point de convergence, c'est quelque chose qui est assez étrange quand on lit Alberti. Alors Alberti, c'est le premier au niveau de la peinture qui définit aussi deux types de rayons. Alors après, on le reprendra plus tard par des gens comme... zut, j'ai oublié son nom. Merleau-Ponty, sur cette idée, et puis aussi Wittgenstein, des choses de Gestalt-théorie, sur l'idée de la silhouette ou pas. C'est Alberti qui dit qu'il y a des rayons qui vont découper les silhouettes. Dans ce cas-là, on a des formes qui vont identifier des formes. Il y a des rayons qui vont identifier, au contraire, les volumes. Et alors, c'est assez marrant, parce que donc vous avez quelque chose qui va identifier les formes et des choses qui, au contraire, vont identifier les profondeurs et les volumes. Donc, il imagine qu'il y a deux types de rayons dans la vision. Ce qui, plus tard, d'ailleurs, donnera, si vous voulez, deux types de peintres. On verra les peintres dessinateurs qui seront plus du côté des contours et du dessin linéaire, et les peintres qui seront plus coloristes et lumineux, qui seront plus du côté, ce qu'on dit, du clair-obscur, de la lumière, du modelé. Hein, il y a deux familles de peintres. Alors, du temps d'Alberti, même juste au XVIe siècle, certains diront que Michel-Ange n'est pas un bon peintre, c'est un très bon dessinateur. Par contre, Titien est un bon peintre, mais un dessinateur moyen. Parce qu'ils diront Titien est plus capable de travailler la lumière, mais son dessin n'est pas très précis. Avec Michel-Ange, il est toujours en train de faire des silhouettes, mais les couleurs et les lumières qu'il fait, c'est un peu du coloriage. Donc, si vous voulez, vous allez avoir des théories ensuite qui vont découler de cela, qui sont assez intéressantes quand ils vont interroger le regard. Alors, revenons à Alberti, parce que c'est quand même aussi un architecte. Et une des églises qu'on a vues d'Alberti, hein, c'est justement Santa Maria Novella, dans laquelle il y a le cloître vert, la chapelle des Espagnols, etc. Alors, c'est facile à comprendre, en même temps je vais vous montrer ça, mais on va se balader un petit peu dans les architectures. Qu'est-ce qui est affirmé de façon évidente ici ? C'est vraiment le cercle et le carré. Si vous voulez, Alberti fait un choix délibéré d'affirmation de deux figures géométriques pures, hein, et qui sont le cercle et le carré. Alors, il y a aussi le triangle induit, etc., on verra, mais on va le voir dans les voûtes, dans les portes, dans les oculus et dans le dessin géométrique des façades. Alors, Santa Maria Novella,
Et Alberti, en fait, et c'est là où ça devient intéressant au niveau de la Renaissance. D'abord, il fait des croquis, il va faire un livre manuscrit qui ensuite sera imprimé. Alors là aussi, avec Alberti, on est à la naissance de l'imprimerie. Donc les traités de perspective et les traités d'architecture vont aussi se répandre. Donc c'est son influence, elle va être liée aussi aux techniques. Et puis, avec Alberti, et le principe même de la Renaissance, c'est de trouver aussi des lois et de retrouver des modèles. Et les modèles, ben, ils vont les retrouver beaucoup dans la tradition antique. La tradition antique qui, en Italie, est beaucoup plus présente par exemple qu'en France. En France, il n'y a quasiment plus aucun vestige gréco-romain, enfin romain, grec, Marseille peut-être, etc. Mais donc, on n'a quasiment pas, ou alors ils sont vraiment très ruinés, il en reste quelques-uns, ils sont enfouis, parce que vous avez une continuité aussi des territoires et la population française est très importante, hein, la population italienne est moins importante. C'est un truc tout bête. Rome, à la Renaissance, a 20 fois moins d'habitants qu'à l'Antiquité. Vous voulez, la Rome, en 15e siècle, il y a peut-être 50 000 habitants, alors que du temps de la République ou de l'Empire, il y avait 1 500 000. Vous voulez, c'est donc, il y avait des bâtiments au milieu des champs, des prés, il y a quelques palais, quelques églises, il y a le Vatican. Et sinon, il y a des biquettes et des moutons et des bergers au milieu des ruines. Mais si vous voulez, les vestiges sont quand même là aussi. Hein, donc vous avez une présence qui va être différente. Alors qu'en France, on a toujours construit ruine sur ruine, ville sur ville, par couches successives en permanence. Donc si on fouille, on va trouver à Paris et partout. Mais ce n'est pas du tout la même chose en Italie. Alors la tradition de l'antique a plusieurs raisons. Donc Alberti, c'est vraiment un chercheur. Quelqu'un d'extrêmement rigoureux qui va explorer justement le rayon visuel, les points de distance, le point de fuite, la mise au carreau, ce qu'on appelle le quadrillage, hein, cadran de Goulouse, etc. Hein, le damier, qui est la base de la perspective avec le point de vue central, les 45 degrés avec le champ de vision, et puis qui permet de préserver les proportions et de se projeter justement dans le lointain. Alors ça va avoir beaucoup de conséquences. Et Alberti commence à vouloir, et il commence à avoir un certain succès, à rhabiller par exemple des vieux monuments qui étaient un peu plus ou moins gothiques, qui n'avaient pas trop d'idées esthétiques. Hein, et tout d'un coup, un de ses premiers objectifs, c'est de rhabiller le temple à Sigismond Malatesta, à Rimini. Et d'en faire une sorte d'édifice. Alors c'est assez complexe, parce que c'est une sorte de temple dédié à un mortel. Hein, donc vous avez aussi quelque chose qui est assez étrange, c'est qu'à la Renaissance, on se détache aussi un petit peu d'un christianisme tout-puissant, parce qu'on va réhabiliter l'antiquité gréco-romaine, on va réhabiliter, on a vu, les philosophes gréco-romains, et on commence aussi à honorer des mortels qui ne sont pas forcément des religieux. On a vu les ducs, on a vu des princes, on voit des commerçants par-ci, par-là, et on voit des personnages à qui on va dédier, y compris des sortes d'hôtels. Alors, pour les honorer, alors là où il y a quelque chose qui est intéressant aussi au niveau stylistique, c'est que l'antiquité gréco-romaine, justement, elle permet d'honorer des mortels sans faire, si vous voulez, de blasphème, parce que ça ne ressemble pas à une église. Les églises, on va quand même les rendre, les rapprocher d'une esthétique universelle. Et puis, vous allez avoir des bâtiments qui ne seront pas forcément des églises et qui vont pouvoir honorer des mortels en faisant des citations qui ne sont pas des citations religieuses, puisque c'est des citations gréco-romaines. Donc, la Renaissance permet aussi de, en faisant quasiment référence très clairement à un temple gréco-romain, pour honorer le temple Sigismond Malatesta, hein, eh bien, c'est une façon, comme ça, de ne pas être dans une sorte de blasphème chrétien. Ils sont chrétiens, mais si vous voulez, vous voyez un peu la subtilité. Alors, voilà quelques... Alors ça, c'est pas moi qui ai fait ça, mais ce sont quelques rapports de proportions faits sur la façade du temple de Sigismond Malatesta. Alors, juste une chose. En fait, c'est un bâtiment en briques, tout simple, mais l'habiller va le décorer. Alors là aussi, il trouve le modèle tout simplement aussi dans l'Antiquité romaine, puisque tous les bâtiments romains étaient en briques et parés de marbre. Alors là aussi, il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est cette idée de la façade, cette idée d'une sorte de séduction superficielle, mais harmonieuse. Hein, on n'est pas dans la structure du bâtiment, les colonnes ne servent à rien. C'est un pur décor. Le marbre, là, on pourra tout enlever, ça tient quand même. L'édifice ne tient pas par le marbre, c'est uniquement une sorte de décor, de mise en scène. Alors, cette mise en scène, alors, elle repose évidemment sur des principes toujours du cercle et du carré. Alors, plus évidemment, si vous avez cercle et carré, vous avez forcément des triangles. Et voilà. Alors, voilà donc quelques croquis, quelques dessins de ce projet-là. Alors, le temple à Sigismond Malatesta, le voilà. Hein. Il a quand même quelque chose qui évoque la religion. Alors, on a un peu un croisement des genres aussi, parce que il y a un clocher, mais en même temps, ça évoque une sorte de basilique laïque. Et donc, c'est à Rimini, avec les colonnes, les cercles, les poutres, hein, architraves, etc. Alors, normalement, le temple devait être plus audacieux, puisque, alors voilà l'intérieur, hein, alors, il y a quand même une sorte de crucifix, etc., mais ce n'est pas une église, et c'est là le paradoxe, et dans laquelle, alors, ces sortes de personnages tout-puissants, on a vu, il y avait par exemple Frédéric de Montefeltre, on a vu les ducs, les Sforza, on a Malatesta, on a les Gonzague, on a et la Chambre des Époux, etc. Tous ces deux de personnages qui créent toutes ces villes et toutes ces cités, en Italie, c'est très important. Hein, c'est parce qu'il n'y a pas de pouvoir centralisé. Il n'y a que le pape qui a un pouvoir centralisé, alors qu'en France, vous avez un pouvoir centralisé. Donc, si vous voulez, vous avez aussi en Italie des choses qui sont assez étonnantes. C'est aussi tous ces espèces de ducs et ces princes locaux, régionaux, vont asseoir leur pouvoir, y compris avec des représentations qui essayent d'être toujours dans une sorte de concurrence avec l'Église. Hein. On verra même les tours à San Gemignano, ça ne date pas d'aujourd'hui, qui essaient de lutter avec les tours des églises ou à côté. Vous avez aussi les peintres et les architectes. Ont plusieurs commanditaires. Ils ont l'Église et ils ont aussi les ducs et les princes, notamment en Italie. Et avec parfois un mélange des genres, comme on le voit ici. Alors voilà ce que devait être le temple à Sigismond Malatesta, qui devient presque, lui aussi, une sorte de... On reprend presque un plan en croix, ce qui est assez stupéfiant. Il devait y avoir normalement une façade avec une arcade dominante, une coupole, hein, et ça n'a pas pu être fait là. Je ne sais plus l'histoire. Est-ce que Malatesta n'a pas été quelque part détrôné ou ça a été interrompu? Voilà ce que devait être le bâtiment. Alors, on se rapproche beaucoup d'un temple chrétien et c'est ça qui est assez stupéfiant. Alors, voilà encore des dessins et des maquettes de l'origine du temple. Alors, Alberti, on va voir, travaille sur plusieurs projets et un des projets, par contre, qu'il a fait aboutir le plus et le plus loin. Sur Santa Maria Novella, c'était surtout la façade. Le temple à Sigismond Malatesta, c'était une sorte d'expérimentation à la croisée des genres. Par contre, ce qui va être le plus abouti, c'est notamment, non seulement la façade, mais y compris l'église Saint-André de Mantoue. Saint-Andrea de Mantoue, dont il va faire tout le plan, alors cette fois-ci en croix, avec des coupoles, avec ici des chapelles latérales qui sont en fait perpendiculaires à la nef. Donc vous avez des murs de soutènement qui sont perpendiculaires à la nef, un peu comme dans la tradition gothique, mais fermés ici. Alors on va retrouver une structure très très proche de la façade de Santa Maria Novella, cercle, carré, triangle, etc. C'est toujours Saint-André de Mantoue, puis je vais vous montrer des vrais. Alors, regardez. La coupe et l'élévation, on est très proche du temple à Malatesta, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus grand. Et là, il s'agit vraiment d'une sorte de... pas cathédrale, hein, mais c'est donc dédié à Saint-André. Hein. Et alors voilà la façade. Alors, la façade ici, qui est vraiment une sorte de façade qui est en... Au lieu d'être une façade plate, c'est une façade presque qui gonfle un petit peu, qui vient en avant de nous, qui fait une sorte de porche, hein, avec une recherche toujours de proportion, des, ce qu'on appelle des pilastres, des arcs plein cintre, à la différence des arcs gothiques qui étaient brisés. Et puis on verra quelques autres exemples. Alors, les références aux ordres corinthiens, doriques ou ioniques, donc gréco-romains, c'est quelque chose qui est très clairement connoté. Hein. Et voilà. Alors, voilà un dessin. Alors, il y a une dimension monumentale. Hein, et on retrouve par contre très clairement l'entrée d'un temple gréco-romain. L'entrée du temple gréco-romain qu'on ne trouvait pas dans les églises jusqu'à présent. Donc, quand on dit qu'il y a un mélange des genres, ça va du religieux vers les princes, mais aussi de la tradition romaine, gréco-romaine des temples vers les églises catholiques, puisque c'est évidemment une église catholique. Et, alors voilà la vraie façade, et surtout, voilà, d'autres exemples. Par contre, elle est un peu coincée sur la place. Et chose bizarre, alors en Italie, ce qui est assez fréquent, l'espace n'est pas dégagé autour. L'église est souvent au milieu de la ville, hein, et on voit rarement l'ensemble du bâtiment. C'est pas du tout comme Notre-Dame, comme dans les cathédrales anglaises, qui sont au milieu des prés. En Italie, il y a une sorte de vie qui continue autour de l'église. Alors ça, c'est... Et on va y entrer tout à l'heure sur l'intérieur. Une autre église avant tout d'Alberti, hein, c'est San Stefano, ici. Alors ça nous dit quand même quelque chose d'assez intéressant dans ces façades-là, c'est la nudité. Alors ça aussi, c'est un petit peu l'équivalent du vide en peinture. C'est, on est capable de faire des façades qui ne sont pas trop chargées, puisqu'elles sont proportionnées. Si vous voulez, la proportion, la belle proportion des cercles, des triangles et des carrés peut permettre d'organiser du vide et des espaces nus. Tandis que la tradition, si vous voulez, gothique, c'est un peu chargé par des colonnes, des colonnes, des colonnes. Et par la suite, le baroque aussi. Le classicisme de la Renaissance, qui repose surtout sur des mathématiques et des proportions, permet, j'utilise un terme un peu bête, de gérer le vide. C'est que d'un coup, eh bien, ce vide n'est pas si vide puisqu'il fait partie des formes géométriques et des rapports des formes entre elles. C'est un petit peu comme la perspective qui permet aussi de penser le lointain. Hein, donc, alors que dans la tradition médiévale, on remplissait une peinture. Elle était, il n'y avait pas de vide. Dans les vitraux, on en est occupé, on avait peur de cet espace vide. Donc, si vous voulez, la pensée, la perspective, ou ici la géométrie, permet de penser des zones nues. Alors, attendez, ça c'est... Alors, l'intérieur de Saint-André de Mantoue, c'est un intérieur effectivement extrêmement monumental et assez prodigieux. Alors, je vais vous montrer, ça c'est la nef. Alors là voilà, ça, j'ai trouvé des photos un peu plus récentes. Et on considère que c'est la plus grande église de la Renaissance. C'est la plus grande église de la Renaissance, c'est la première qui soit aboutie à ce point. Alors là, c'est une photo relativement ancienne dans laquelle les peintures sont très sombres, alors j'y reviendrai. Et dans laquelle vous voyez que cette fois-ci, non seulement dans la façade, mais dans l'espace, les cercles, les carrés, se transforme même en cubes et en sphères, en demi-sphères, et etc. Et tout d'un coup, vous avez une sorte de jeu de volume, des volumes très purs, hein, puisque justement, il y a une grande mise en scène là aussi du vide. Et d'ailleurs, si vous y allez, je vous invite à y aller, commencez à chanter, tout doucement. Il y a une acoustique mais prodigieuse. C'est-à-dire que ce grand vide n'est pas vide. C'est une organisation de l'espace, mais qui fait que, à la fois, c'est monumental, mais ce n'est pas écrasant. Et là, vous avez un jeu. Alors là, maintenant, c'est une photo plus récente, puisque tout est peint avec des... Alors, il y a des peintures qui ne sont pas forcément toujours intéressantes, mais il y a des décors, des trompe-l'œil en pilas, etc., et une voûte à caissons qui est peinte, avec les oculus, la lumière et les jeux de lumière sont absolument prodigieux. Alors là, on voit, c'est nettoyé, c'est beaucoup plus clair, hein, dans la peinture, dans la photo précédente, c'est beaucoup plus sombre, et c'est d'une grande homogénéité. Alors là, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'homogénéité, de plénitude, hein, et il s'écarte totalement de la tradition des églises gothiques, romanes qu'il y avait en Italie, en pensant justement uniquement les formes pures. Les formes pures se suffisent presque à elles-mêmes. Et donc il y a très peu de volume, hein. Là, si vous voulez, il n'y a pas des colonnes, il n'y a pas de colonnettes, il n'y a pas de colonne centrale, voilà encore, hein, une sorte de... Alors là, on est dans un temple pur, alors ça correspond tout à fait justement à ce que disait son ami Pic de la Mirandole à Florence. Alors tout ça, c'est des Florentins, hein. Pic de la Mirandole, Marcile Fissin, Alberti, Brunelleschi, Piero la Francesca, ils se connaissent, hein. Vinci va passer dans le coin, etc. Piero la Francesca, donc c'est aussi des gens qui échangent. Hein. Et cette idée justement d'un temple, où l'on voit bien que le temple, c'est la projection mentale d'idées pures. L'architecture, c'est la projection d'idées pures. C'est plus une imitation cette fois-ci. L'architecture, ce sont des cercles et des triangles et des carrés qui, donc c'est des formes pures mathématiques, géométriques, qui d'un coup deviennent des volumes et deviennent une réalité. Donc quand on rentre dans l'architecture, eh bien on est pris dans des harmonies mathématiques qui nous élèvent. Alors vous verrez, et c'est pour ça d'ailleurs, regardez maintenant, regardez cette photo, ça c'est une photo toute bête, alors là le point de fuite aussi, bah, il est en face du photographe, il est là. Mais, si je reviens en arrière, c'est moi qui ai fait le dessin, on se rend compte de quelque chose d'assez stupéfiant. C'est qu'une expérience physique, optique, je suis dans le... En fait, de manière implicite, vous avez une structure géométrique y compris plane. Non seulement vous êtes en plein dans une géométrie de l'espace, vous êtes dans un volume, mais ce volume quand on le regarde bien, il dessine aussi une géométrie plane parfaite. Deux carrés imbriqués et deux sphères totalement imbriquées. C'est-à-dire que Léon Battista Alberti, c'est un théoricien de la perspective, de la géométrie, mais en architecte, il se débrouille pour que ces architectures, quand on rentre dedans, eh bien on se retrouve, y compris avec des effets de géométrie plane. Avec des rapports de géométrie plane, de cercles, de triangles équilatéraux, de carrés et de cercles encastrés, etc. Donc vous avez ici quelque chose qui est un sommet intellectuel de la Renaissance italienne et de l'architecture, puisque justement, eh bien, vous avez la combinaison de choses apparemment opposées. Ce qui serait pur et platonicien, puis la réalité brute, une expérience sensible physique et puis une expérience intellectuelle pure, et le vide et le plein, l'espace et le plan, vous avez donc le volume et le plan, et là vous avez quelque chose d'absolument remarquable. Et ça correspond aussi à la place du spectateur, parce que là aussi, la place du spectateur, le point de fuite, la monumentalité, certains coups, le point de fuite, ici la pointe du triangle équilatéral, c'est en face de vos yeux, parce que le point de fuite, c'est en face de votre œil. Quand vous prenez... Alors, sauf qu'ils n'avaient pas de photo. C'est là où c'est d'autant plus stupéfiant. Ils n'avaient pas de photo. Donc, ce sont aussi des constructions théoriques. On a pu vérifier ça qu'avec la photo. C'est qu'il faut attendre presque 500 ans pour qu'on puisse se rendre compte à quel point c'est parfait dans la conception. Alors, je vais terminer la présentation de l'église de cette basilique monumentale. Voilà l'exemple. Alors, voilà les voûtes à caissons. Alors là, les voûtes à caissons, c'est aussi quelque chose qui va être inspiré, on va voir, de la tradition romaine, et qui permet à la fois de consolider les vieilles voûtes plein cintre ou les arcs plein cintre romans, et en même temps le génie gothique des nervures. Et ça, les principes des caissons, c'est les croisements comme ça. Et on verra qu'il y a beaucoup d'explications. Alors voilà d'autres vues. Alors voilà les visions des coupoles. Et là, on voit bien le jeu des... Alors, vous avez toute la variation du cercle au plein cintre, au berceau, et du berceau à la voûte. Vous avez la demi-coupole, ce qu'on appelle le cul de four, et puis vous avez la demi-sphère. Donc vous avez toutes les variations du cercle jusqu'à... alors je continue certaines. Alors ici, alors ça donne des visions justement. Soit que vous regardez droit devant vous ou en l'air, vous avez effectivement des surprises, mais qui sont toujours très ordonnées, et dans lesquelles on retrouve toujours les rapports du carré et du cercle dans le carré, du carré dans le cercle, etc. etc. Donc toujours des croisements, et alors là, des jeux de lumière magnifiques, qui sont d'une grande délicatesse, malgré le fait que ça semble assez chargé, mais en fait, c'est pas si dur que ça. Et voilà aussi, alors, tous les points de vue possibles. C'est assez difficile, hein, parce que c'est un volume. Et voilà encore. Et voilà quelques détails. Alors ça, c'est du trompe-l'œil, hein, en même temps. Il joue aussi sur la vraie structure en caisson et le trompe-l'œil. Et voilà encore une autre image. Alors, il y a aussi une très grande unité de la peinture qui vient cette fois-ci au service d'architecture. En fait, les peintures sont ici une manière de souligner les structures d'architecture. Elles ne sont pas si autonomes que ça. Là, vous avez un jeu très subtil fait par les œuvres peintes. Et ça, c'est quand on... Alors, le porche que vous voyez de l'extérieur qui semble pas tout payer de mine, voilà ce qu'on a quand on sort et quand on lève le regard, c'est qu'on a quelque chose d'absolument si remarquable de précision. C'est parti du tout. Alors, la prochaine fois, on continuera sur Alberti. Hein, et si vous allez à Mantoue, eh ben, allez faire des photos et chanter.
On va le voir en visite.
Oui.